L'Enum, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper, c'est Julien, bienvenue dans l'update saison 2, une saison qui commence une fois encore avec le rendez-vous tech incontournable. Je veux bien sûr parler du CES 2026. Bon, messieurs, comment ça va?
Ça va et toi?
Ben, froidement.
Et toi, Diogo?
On est là.
Oui, parce que nous, on est là. Il faut savoir quand même qu'il y a une partie de la rédac qui, elle, est en train de se dorer la pilule à Las Vegas.
Qui n'est pas là.
Bon, donc nous, on se les caille ici à Paris. Donc, je présente Henri Grimaud.
Bonjour.
Qui est à la rubrique Maison.
Toujours.
Diogo à l'informatique.
C'est ça.
Et tous les deux, une passion commune, on peut le dire, pour le gaming.
J'aurais pu
mettre
vidéo.
D'autres mots que ça.
C'est vrai, je sais pas. Pour le flan pâtissier, pour la galette des rois.
Pour le cuir.
Et les moustaches.
Et les moustaches.
Bon, si nous on est restés et que d'autres sont partis à Vegas, c'est parce qu'il y a le CES. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous rappeler ce que c'est le CES pour les auditeurs un peu paumés qui viennent de débarquer ou sont tombés sur
vas-y, le Diogo, c'est toi l'américain, vas-y.
Le Consumer Electronic Show?
Yeah, on a game.
Il date pas d'hier, hein. Il date des années, je sais pas. 80, je dirais, minimum.
Une encyclopédie, ah ouais, c'est incroyable.
Ah ouais, on avait deux, même. On avait un l'hiver et un l'été. C'est fou. Un qui se déroulait à Chicago, si mes
j'espère pas. Que c'est l'été qui se déroule à Chicago, parce que l'été dans le désert, ça va être incroyable.
Et ça va être ça. Et finalement, il n'y en a plus qu'un. Il n'en restera qu'un. Et c'est donc le salon privilégié pour tout ce qui est technologie. Dans le milieu, on dit blanc et gris. Est-ce que vous savez c'est quoi le blanc dans le milieu de la tech? C'est quoi? C'est
l'électroménager.
La spécialité.
Et pourquoi on dit le blanc? Parce que les tôleries étaient blanches à l'époque. Du coup, bah, un frigo blanc, la linge blanc, la vaisselle blanc, tout était blanc.
Exactement.
Et le gris, c'est l'informatique. Et parce que bah, tout était gris.
Exactement. Beige gris. Et c'est un salon très écran. Contrairement au MWC qui est très portable, donc oui. Je connais bien.
Oui, on y reviendra bientôt.
Voilà.
À l'heure de tous les leaks et les keynotes qui peuvent tomber à tout moment et dans tous les sens, est-ce qu'il y a encore un intérêt au CES? Est-ce que ça reste intact?
Bah, c'est très pro,
ouais.
Comme salon. Ça s'appelle Consumer Electronics parce que c'est des produits qui sont en majorité faits pour les consommateurs lambda, mais c'est des salons de networking, c'est des salons de serrage de pince professionnel. Ouais.
Rencontres B2B.
Ah là, il n'y a pas de
consommateurs, quoi, en fait, au CES.
Voilà.
Hein, vraiment,
mais
c'est... Oui, il y a des consommateurs, ouais, ouais. À l'IFA, les dernières journées, en général, t'as tout Berlin qui arrive, qui déboule à l'IFA.
Voilà. L'IFA qui est un autre salon, du coup, à Berlin.
Ouais, l'IFA, c'est un autre salon à Berlin. C'est un peu la même chose que le CES, mais en plus consumer, pour le coup.
Vraiment, et très, très, très blanc.
Très, très blanc. Non, il y a plein de trucs, en fait. À l'IFA, t'as de la voiture, t'as des écrans, t'as plein de gadgets, t'as des trucs de fou. Et ça parle beaucoup allemand vu que c'est à Berlin.
Et beaucoup plus informatique par rapport à tous les autres salons. C'est vraiment le CES que... Et le Computex en Asie, bon là c'est vraiment... Le nom est dans... C'est tout est dans le nom, mais en Occident c'est peut-être le salon avec le plus informatique. Mais...
D'ailleurs l'an dernier, le terme qui nous a été servi à toutes les sauces tenait en deux lettres, c'était l'IA. Est-ce qu'on peut dire que cette année c'est le même combat?
Oui, mais en plus cette année ça va être encore pire parce que bientôt ils vont sortir Gemini for Home. Et du coup voilà, il va y avoir de la sauce IA vendue dans ta maison. Ça va être incroyable, ça va être foufou. Normalement, c'est déployé en ce début d'année, je crois. Aux États-Unis, c'était déployé en fin d'année dernière, donc en 2025. J'ai pas de retour encore dessus. Je sais pas ce que ça vaut. Et je pense que ça va être un truc assez intéressant parce que je sais pas si les gens ont déjà utilisé Google Home ici, mais c'est une tannée en fait. Pour le moment, c'est bête comme ses pieds et tu peux pas piloter ta maison comme ça en fait. Il faut vraiment avoir des ordres
bien définis,
au cas par cas, machin, un truc bidule, et c'est franchement un enfer au début. On espère qu'avec Gemini for Home soit un petit peu plus fluide, qu'on puisse parler un petit peu à sa maison comme on parlerait à Diogo ou à Julien.
Ouais, c'est un peu le principe déjà de Gemini avec un smartphone, c'est de pouvoir l'avoir comme un compagnon avec qui on peut discuter.
Exactement, et que ça fait des trucs chez toi, genre ça allume ta lumière, ça allume ton four, ça te dit si quelqu'un est passé, voilà.
On regarde ça un peu de nos yeux de Parisiens coincés à Paris, mais parmi ce qu'ont repéré les collègues, eux, dans les allées à Las Vegas, qu'est-ce qui a retenu votre attention si vous avez deux produits ou innovations?
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis 2-3 ans, le marché de l'informatique et des PC portables surtout, faut la légèreté à tout prix. Il y a un cap qui a été franchi, je pense, depuis 2 ans. Ça, c'est drivé par tout ce que fait Apple avec le MacBook, etc. C'est qu'on cherche moins la puissance que vraiment la possibilité d'avoir un ordi qui s'efface un peu de nos mains et qui devient de plus en plus léger. D'autant qu'en plus, la course à la puissance, comme on en parlait tout à l'heure, ça va devenir encore plus compliqué. Mais là, vraiment, la légèreté, c'est un mot d'ordre qui revient très souvent.
Au même titre que la finesse sur les smartphones?
Exactement. Légèreté et finesse, en général, ça va ensemble aussi dans l'informatique. Par exemple, le MSI Prestige 14. MSI, c'est une marque taïwanaise très typée jeux vidéo, gamer, avec les lupiotes et tout. annoncé un petit, on appelle un ultra portable. On pensait MacBook, etc. PC très portable, très fin. Pas fait pour le gaming, donc. Mais ils ont annoncé un modèle qui s'appelle Prestige 14 et Prestige 13, pardon. C'est un 13 pouces, donc l'écran fait 13 pouces. Et qui ne pèse que 899 grammes. Et donc, c'est moins d'un kilo, logiquement. Et 899 grammes, pour, j'ai pas trop d'indicateurs de comparaison, mais le MacBook pèse 1,2 kg. D'accord. La même diagonale, donc c'est 300 grammes en moins. Je ne sais pas s'il y a des modèles moins lourds que ça, parce que MSI se targue d'être... l'animation est précise, hein, le PC portable en aluminium, magnésium, le plus léger du monde.
Oui, parce peut-être. Que ça passe pas seulement par de la finesse, mais aussi par les choix des matériaux.
Voilà, donc je sais pas s'il y a des PC consommateurs qui sont en vente encore plus légers, mais en tout cas, dans notre comparatif, c'est le plus léger. Mm-hmm. Le deuxième plus léger, c'est le ZenBook A14 d'Asus, il me semble, qui pèse 990 grammes, et c'est un 14 pouces, donc il est plus grand. Logiquement, il pèse pas lourd. Là, vraiment, le 13 pouces, 899 grammes, c'est quelque chose d'assez impressionnant. En plus, la puce qui est dedans, elle n'a pas l'air très mauvaise. C'est les dernières puces de chez Intel. On ne va pas faire les specs, mais ils promettent plus de puissance tout en étant plus frugaux sur l'énergie que ça demande, donc plus d'autonomie de batterie. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça donne entre les mains, parce que moi, j'adore les quand les PC sont légers. Et 900 grammes, ça m'a l'air pas mal du tout.
Et tu crois qu'on peut arriver à des PC encore plus légers que ça à l'avenir? On va arriver à barrière.
Ça devient chaud. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a trop de sacrifices qui vont être faits dans la construction pour avoir un truc viable, soit au niveau des composants internes que des composants externes, parce qu'à l'intérieur de ton PC, il n'y a pas qu'une puce, il y a tout un système de refroidissement, on appelle ça un cadeau-luc, pour refroidir et lui permettre d'optimiser cette performance et de ne pas crever. Quoi. Donc, et en plus, le poids de la batterie, etc. Donc,
moi, j'ai vu un truc qui n'a rien à voir avec la maison, qui n'a rien à voir avec l'informatique, qui n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo. Donc, c'est le Lego Smart Play. Alors, qu'est-ce que c'est le Lego Smart Play? Bon, déjà, c'est une brique Lego. Pour les aficionados, c'est une brique 2x4 qui embarque plein d'électronique. Ça embarque quoi? Ça embarque un accéléromètre, un détecteur de couleur qui n'est pas une caméra, si j'ai bien compris. Ça embarque un module sonore, enfin, ça embarque plein de choses. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que cette espèce de brique magique là, c'est le microprocesseur de tes futurs Lego et de tes futurs jeux. Je m'explique. Elle va piloter plein d'autres petites briques en fait, que tu vas mettre sur tes constructions qui vont interagir entre elles. En fait, on va prendre un exemple très simple, ils vont sortir des Lego Star Wars. Très bientôt avec cette brique. Et donc, pendant la construction, tu vas mettre une petite puce dans ton vaisseau Star Wars qui prendra la forme d'une brique Lego toute bête. Et en faisant interagir les différents éléments entre eux, tu vas avoir des effets sonores, tu vas avoir des flashs qui vont arriver. Enfin, tu vas avoir plein de trucs visuels, sonores, machin, pour stimuler l'imagination des petits-enfants.
Mais est-ce que déjà le principe même de Lego, c'était pas déjà de stimuler leur imagination?
Si, mais là, en fait, le but du jeu, ça va être, après avoir construit le truc, tu vas pouvoir jouer avec. C'est vrai qu'on en a parlé. Et perso, je pense que ça va pas hyper bien marcher non plus, parce que le but de Lego, c'est quand même de créer des produits, c'est de les monter soi-même, c'est de trouver des solutions pour recréer le mieux possible le monde. Et donc... Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras fait un super X-Wing, on va dire, tu vas pouvoir mettre ta brique dedans. Et il va faire le bruit des lasers, il va faire le bruit de l'accélération. Selon ce que tu vas faire avec, tu auras plein de réactions, en fait. C'est-à-dire que si tu le fais aller très, très vite au sol, il va pouvoir détecter qu'il va arriver près du sol. Il va faire un bruit de crash, en fait.
D'accord.
Donc, ça promet des heures d'amusement si on aime ce genre de choses.
C'est une brique unique?
Alors, c'est une brique unique.
Qui reconnaît les autres en fonction du set que tu as acheté.
Exactement. C'est exactement ça. Tu le mets ta brique dans une construction Lego, dans un modèle. Et après, il va reconnaître toutes les autres briques qu'il y a autour. Et il va interagir en fonction de ça. C'est pour ça que c'est un petit peu magique.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime bien le concept. Même si j'ai peur que ça ne soit pas une réussite fulgurante chez Lego.
Ouais.
Faut attendre. Après, je me trompe peut-être. Et Lego avait déjà fait ça avec les produits Mario. Mais le module était beaucoup plus gros. Là, vraiment, c'est une brique. Alors, c'est pas minuscule parce qu'il faut quand même la placer dans le truc. Mais qui est plus invisible, en fait, dans le set. Après, je sais pas ce que ça donnera quand tu fais des sets un peu moins marqués, un peu moins typés. Genre, si tu fais une belle voiture, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que si tu la fais avancer, ça fera un bruit de moteur, un machin? On sait pas.
Du coup, ta prochaine trouvaille, toi, ça fait poète-poète, vroum-vroum, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi.
Pas du tout. C'est un PC embarqué dans un clavier. Ça s'appelle le Eliteboard G1A de chez HP.
Ouais.
Et c'est un clavier, on appelle 60%, que c'est un clavier plus petit qu'un clavier avec un pavé numérique, etc. Donc c'est un clavier assez ramassé qui en fait abrite à l'intérieur une puce de PC portable et une batterie.
Okay.
Et donc en fait, on le branche en HDMI à un moniteur et paf, on a sa configuration toute prête dans le clavier.
Fut d'un temps, on avait un all-in où c'était l'écran et l'ordinateur intégré. Là maintenant, c'est le clavier et l'ordinateur intégré.
Ça n'allait pas hier, les PC dans les claviers, le Commodore, etc., l'Amiga, leur forme était incluée à un clavier plutôt qu'être uniquement un clavier. Là, c'est vraiment genre, imaginez juste un clavier tout simple, relativement épais.
Oui.
Mais qui peut fonctionner comme un PC portable, juste en le branchant en HDMI. À l'intérieur, il y a une puce haut de gamme de chez du constructeur AMD. C'est des puces qui coûtent cher, donc le produit va coûter cher, à mon avis. C'est un produit qui se destine avant tout aux professionnels, je pense,
ouais.
Pour équiper un parc de bureaux ou quoi. Okay. Justement, pour le flex office, par exemple, ça peut être pratique. Et le truc, c'est que ce form factor-là, même s'il est rigolo, l'utilité concrète aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme il ne faut pas dire,
il faut pas dire du tout, effectivement.
Je t'avoue que ça
c'est quoi, c'est toujours cette quête de compacité, de...
Ouais, mais en PC portable et ça, je veux dire...
Parce que je vois pas le...
PC et le moniteur, tu vois, donc c'est cool. Après, je pense que peut-être un avantage à avoir une puce aussi... Non, même pas, parce qu'il y a déjà cette puce-là dans les PC portables. Non, j'essaie de trouver une utilité. Parce que je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo.
Parce que j'imagine qu'ils ont brainstormé quand même. J'imagine qu'il y a quand même
de l'argent qui est mis là-dedans quand même. Donc, et c'est un produit qui va être. Encore une fois, je pense qu'on est plus sur du marché professionnel que sur du marché consommateur. On va pas trouver ça à Leclerc. Mais là, je vous avoue que je cale.
Mais ils ont fait des études de marché, j'imagine. Ils ont fait
j'imagine qu'il y a une raison derrière ça et que c'est pas un mec en mode personnel qui s'est dit les gars, je vous impose
je vais réinventer un truc.
J'ai demandé 100 000 unités. On ne sait pas comment on va faire avec, mais les voici, les voilà.
Ton deuxième objet, Henri, toi aussi, c'est niche ?
Non, moi, c'est pas niche du tout. C'est un produit qui promet de répondre à une problématique qu'on a quand on a un aspirateur robot et un étage, c'est qu'il ne va pas à l'étage. Maintenant, Roborock sort le Saros Rover, qui est un petit robot aspirateur avec deux petites roulettes sur le côté.
Donc, ils avaient commencé avec un bras articulé qui pouvait récupérer des obstacles,
ouais,
et des chaussettes et tout ça.
Exactement.
Et maintenant, il peut carrément...
Maintenant, il veut monter le bordel. Ouais, donc l'aspirateur... en fait, le concept, c'est qu'il bute contre une marche, il sort ses petites pattes articulées avec les roues, il grimpe, il avance un petit peu sur la marche, il replie ses pattes, il avance sur la marche et ainsi
de
suite. Recommence.
Mais c'est quand même, j'imagine, limité à une certaine hauteur.
Alors, ouais, c'est limité à une certaine hauteur, mais les marches non plus, c'est pas des trucs qui sont extrêmement hauts. Je veux dire, t'as pas des marches de 1m80. Donc, je crois que c'est
un centimètre,
un peu comme ça. Donc, on n'a pas vu encore de vidéo. Moi, j'en ai pas vu. Je pense que c'est un truc qui va être long, mais très long à monter les escaliers. Genre 3 heures, tu vois. Je ne l'ai pas vu descendre non plus. J'avoue que là, j'y pense, mais je ne sais pas comment il va faire pour descendre. Je pense que ça va être très très rigolo. Tu vas le retrouver complètement démantibulé au bas de l'escalier. Ça va être hilarant parce que tu l'auras payé 2 500 € et qu'il sera tout pété.
Et puis surtout, il faudrait pas qu'il arrive en haut à l'étage et qu'il ait plus de batterie.
ça serait tellement drôle ça.
Ça
serait marrant. Ça, j'aime bien l'idée.
Entre deux marches.
Peut-être qu'il y a deux bases. Je sais pas du tout. Non, mais je pense qu'ils ont pensé à ça. Ils ont dû dire, il montera pas les marches tant qu'il y a pas 30% de batterie, une connerie, une bêtise comme ça. Donc, on verra ce que ça donne, ce petit Saros Rover. Mais la solution est intéressante. Elle est sans doute beaucoup plus viable que ce qu'a montré Mova. Un truc incroyable, un drone qui prend le robot aspirateur au rez-de-chaussée, voilà.
Ouais.
Il le monte à l'étage,
d'accord,
dans un bruit infernal, paraît-il.
Mm-hmm.
Je pense que la solution de chez Roborock est plus intéressante.
Il y a quand même pas mal de nouveautés à ce sujet. C'est-à-dire la robotique, ça prend de plus en plus de place dans la maison. Est-ce qu'on se rapproche d'un futur proche des films de science-fiction qu'on pouvait voir dans les années 90 ou ça reste au stade de l'expérimentation pour l'instant ?
Il y a de plus en plus de constructeurs qui ont proposé des robots humanoïdes qui pouvaient faire des tâches ménagères. LG en a proposé un dont je ne me souviens plus du nom. C'est un truc qui existe depuis 25 ans.
Il y a un robot qui plie le linge, par exemple.
Ouais, mais c'est... En fait, il y a des trucs qu'on a vus depuis des années, ils ne sont jamais sortis et qui... je ne vois aucune raison pour qu'ils sortent très prochainement. Les trucs sont pas assez rapides, ils sont pas assez flexibles, ils ont pas assez de jugeote en fait. Ça reste du robot, il peut pas s'adapter comme ça à l'environnement, il lui faut quelque chose. Alors peut-être qu'avec l'IA dans quelques années effectivement, mais là non, ils sont trop stupides pour avoir une quelconque utilité et pour être productif en fait dans ta maison. Parce que c'est bien joli de plier un t-shirt, mais s'il met 3h30 pour le faire, voilà quoi, il y a une pile derrière en fait. Et tu vas beaucoup plus vite toi-même en tant qu'humain pour plier ton t-shirt que ton robot. Même si tu restes à l'extérieur pendant ce temps-là. Même
bien
si
sûr.
Il officie pendant que tu n'es pas là. Ouais, si tu reviens et que tu as quand même ta pile de linge derrière qui n'est pas rangée, c'est chiant.
Alors on le disait, c'est à la fois le blanc et le gris, donc l'informatique au CES. J'ai retenu la leçon. L'ordi portable tel qu'on le connaît, il vit une période un petit peu plus calme après le boom du Covid. On va dire que c'est là où il y a le plus de ventes. Il faut le télétravail, tout ça. Le secteur cherche à se renouveler. Ça se traduit comment ?
Le marché du PC gamer portable, les grosses bécanes qu'on voyait souvent aussi, c'est un chasse affiné. On voit de plus en plus de constructeurs qui essaient de trouver non seulement des machines puissantes, mais qui essaient aussi de trouver des châssis qui ne deviennent pas une sorte de briques énormes pour en avoir un peu honte de sortir de chez nous. Je pense à Alienware qui a dévoilé très succinctement, sans dire le nom ni le prix ni quoi que ce soit, d'un modèle gaming ultra fin qui ne ferait pas de compromis sur les performances. Mais ça reste un marché qui va commencer à tendre vers la recherche de frugalité.
Parce qu'il y a, deux fois que t'emploies ce mot.
Il y a un contexte, j'adore ce mot, parce qu'il y a un contexte économique particulièrement compliqué pour l'informatique depuis, qui commence à s'amorcer, qui commence à montrer ses conséquences-là.
Puis on va en parler après, et c'est pas prêt de s'arranger.
Et c'est pas prêt de s'arranger, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que, en anglais, je vais faire l'enfoiré qui utilise de l'anglais, mais j'ai un peu la peur de la fin du personal computing, c'est-à-dire de l'informatique personnelle. J'ai un peu la peur de ça, que l'informatique comme ça, de PC portable ou de PC fixe, etc., deviennent des objets de luxe, des objets qui font partie d'une niche, alors qu'aujourd'hui, c'est des objets qui sont très populaires, mais avec les jeunes générations qui en utilisent de moins en moins, parce qu'elles ont des smartphones dès l'âge de 12 ans, etc. Et même, c'est compliqué comme terme, l'informatique personnelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser un ordinateur en local, sans être forcément lié à Internet,
exactement, ouais.
En stockant nous-mêmes nos données personnelles, nos informations, que nos utilisations restent dans un cercle privé. Tout ça, c'est des concepts qui tendent à disparaître. Windows est devenu Windows 11 cette année, plus que l'année dernière, c'était un bordel. Cette année, ça va pas s'arranger avec le push de Copilot, etc. Ça devient, beaucoup de gens commencent à en avoir jusque-là, que Windows te pousse toujours à consommer ses abonnements, à t'abonner à tes choses, à utiliser tel service, parce que le service est plus important que ce que tu vends comme en termes de programme. Moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Et le CES, c'est pas vraiment le salon où les gens commencent à parler de ça parce qu'ils sont trop excités à faire plaisir aux actionnaires et à montrer des produits avec un effet entre guillemets wow, même si moi, en tout cas, ça me wow pas quand on parle d'IA. Mais moi, j'ai vraiment cette peur que d'ici à 10 ans, la moitié des gens qui consomment de l'informatique ne le fassent plus que d'une façon réduite dans des jardins fermés qui sont au service de multinationales qui sont regardantes sur la protection de nos données et sur la commercialisation de nos données, en fait.
Après, je crois que c'est une crainte qui est partagée par d'autres secteurs. Je peux parler des jeux vidéo, on peut parler du streaming avec le format physique, un peu la marotte également, tout ce qui est smartphone, etc., où en fait, maintenant, tout est devenu utilisation à péage. Tu payes des abonnements à foison pour pouvoir ne serait-ce qu'utiliser le produit que tu as entre les mains. Est-ce que ce n'est pas malheureusement le sens de l'histoire ? Qu'il va falloir peut-être à un moment donné faire des choix sur ce qu'on veut ou peut se permettre.
Après, nous, dans l'électroménager, on est assez protégé de ce genre de choses, même si il y a eu effectivement des constructeurs qui ont commencé à proposer des lave-linges dans lesquels tu pouvais choisir quel programme tu allais utiliser. Et tu disais, bah, écoutez, pendant un an, j'ai utilisé le programme Coton, et il disait, bah, ça va vous coûter, je sais pas, 30 balles par an pour utiliser ce programme. Et tu pouvais rajouter comme ça, tac, des programmes supplémentaires. J'en ai plus entendu parler depuis la sortie. Ça avait fait un gros tollé. Je ne sais pas s'ils sont encore intéressés par ça. Si tu y penses, en fait, c'est pas si bête que ça, parce que sur un lave-linge, aujourd'hui, tu as une vingtaine de programmes. Techniquement, tu en utilises deux. Si ça peut faire baisser le prix du produit, je vois pas je suis même assez pour. Maintenant, un abonnement annuel pour utiliser tel type de programme, ouais, ça me paraît chelou.
Si vous deviez retenir un produit plus what the fuck, qu'on a pu peut-être croiser dans les allées ou même que nos camarades de la vidéo ont pu repérer et ajouter sur les réseaux, ce serait quoi ?
Moi, dans le même ordre d'idée, du coup, j'ai vu le Motorola Project Maxwell, dont tu as fait la news.
Oui.
C'est une sorte de... On appelle ça les
iPin. Enfin, alors, les iPin, c'était un produit de la startup Human.
Là, c'est plus un collier.
Oui, ça peut les deux, ça se clip et également, ça peut se mettre en pendentif.
Et c'est une sorte de... littéralement un bidule qui donc peut regarder, enfin, il règne.
En gros, il est au quotidien, il est aware sur tout ce qui se passe autour de toi, il peut répondre à tes questions, il peut faire des actions, il peut analyser une image, il peut analyser ta bouffe.
Tu vois, je vois un mec dans la rue avec ça, j'ai envie de lui casser la gueule. Tu vois, tu me parles et t'as ça autour du cou, je veux dire, mais va te faire.
Alors, voilà. Le principe de base de Human, donc de l'AI Pin qui a été présenté au MWC et qui a fait un four, hein, il faut le répéter, ça n'a pas marché. Parce qu'encore une fois, au-delà même du prix qui était quand même plutôt conséquent, je pense que c'était à peu près 600 ou 700 dollars, il fallait payer un abonnement pour se permettre d'utiliser les services derrière. Ce truc devait remplacer ou tuer le smartphone. Ce qui soulevait aussi pas mal de questions concernant tes données personnelles, ce que tu fournis. Tu as envie de réserver un ticket de cinéma ou un billet d'avion. qui rentre tes coordonnées bancaires.
Comment le truc le sait, tout ce que tu veux, en fait. Tu ne peux pas tout renseigner d'un seul coup, en fait. Tu ne peux pas dire, bah, moi, j'aime bien aller au cinéma un peu à droite de l'écran, en bas.
Pour l'instant, malheureusement, ça se heurte à plein de problèmes parce que nos usages ne sont pas faits pour. Maintenant, oui. Ce produit-là, je pense que ça doit être un produit assez limité.
C'est, Dieu merci.
Ça ne va pas aussi loin que la Épine. Maintenant, ça reste un projet et se souvient que ça en reste un.
J'ai réussi à lui faire parler du produit plutôt que je.
Fort, hein. Non, tu mais... es fort, du coup.
Mais c'est un peu le what the fuck. Non, mais c'est le truc qui, toi, t'a fait bondir, en fait.
C'est comme les lunettes Meta. Je trouve que ces sortes d'intrusions dans la vie privée, enfin, la vie publique slash privée, mais ce genre de. J'ai pas envie de dire que ça sert à rien, c'est débile parce que je travaille pour le numérique et on passe notre temps à créer des trucs qui ne servent à rien parce que c'est la nature même de l'électronique pendant un moment, en fait. Donc voilà. Mais là, c'est une intrusion dans la vie privée. J'ai pas envie d'être filmé par quelqu'un qui a des lunettes, en fait.
Diogo a raison, ça fait un peu peur, en fait, cette intrusion que tu ne veux pas parce que, effectivement, j'aimerais pas me retrouver fiché par le bidule parce qu'il y a un mec qui l'utilise juste à côté de moi. Je détesterais ça.
Et toi, en termes de bidule, qu'est-ce que t'as...
Oh là là, moi, c'est un truc bien moins polémique. On est à la maison, on est tranquille, on lave son linge, tu vois. En fait, moi, ce que j'ai repéré, X-Zone Master.
C'est un lave-linge modulaire, le premier, qui a été présenté par Hisense. En fait, tu vois qu'on a, je sais pas si tu te souviens, on a un multi-wash dans le laboratoire. C'est un appareil qui possède un tambour principal. Et au-dessus, on a deux petits lave-linges satellites qui permettent de charger des... pièces un petit peu plus petites ou pour ne pas les mélanger avec la grosse charge.
Ok.
Bah là, en fait, le concept, c'est d'avoir à peu près la même chose, sauf que tu as un lave-linge principal, un lave-linge séchant pour le coup, qui va permettre de retirer l'humidité au maximum des fibres après avoir été lavé. Et au-dessus, on peut ajouter un lave-linge aussi, enfin deux lave-linges, puisqu'il y a deux tambours en fait, l'avant-séchant aussi, d'une capacité moindre. Hein, on parle de 1 kg, je crois, de charge pour le lavage et de 500 grammes pour l'essorage. Donc tu vois que c'est vraiment pas énorme.
T'as trois hublots quoi sur le
truc. T'as trois hublots sur le truc.
On dirait un centre système quoi.
Très bien. Un centre système avec les deux buffers au-dessus et voilà.
Et le petit truc en plus, parce qu'il y a un petit truc en plus, c'est que tu peux en acheter plusieurs. C'est-à-dire que le truc qui est au-dessus, sur le multi-wash, tu peux pas l'enlever. C'est impossible, c'est scellé, c'est la même tôlerie. Tu ne veux pas l'enlever.
Okay.
Là, tu peux le séparer et en plus en acheter d'autres. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux avoir une demi-douzaine de petits modules supplémentaires pour toutes tes petites charges.
Mmh.
Alors, l'intérêt d'en avoir 50, bon, je t'avoue que là, je ne le comprends pas trop. Alors, faut chercher. Hein. Il faudrait une famille avec un mec qui court tout le temps, qui a besoin de laver ses vêtements de sport tout le temps, qui possède en plus un chien qui a un petit manteau et un petit canier qu'on lave très souvent. Et à tout ça, tu ajoutes des affaires de bébé et une femme qui adore la lingerie fine. Bon, on va dire très simplement... Il faut quand même beaucoup de conditions pour que ce soit intéressant.
Ok,
c'est un grand bonheur. Je ne sais pas où...
C'est ce qui est dommage dans l'audio, c'est qu'on ne voit pas le visage de Diogo se décomposer en mode « tiens, c'est quoi encore cette invention de merde ?»
C'est beau le problème.
Après, je ne sais pas si c'est une invention de merde. Bon, à voir. Après, il y a sans doute des gens qui vont trouver ça extraordinaire. Pareil, hein, c'est comme chez HP.
Chez HP de l'EPC.
Il y a sans doute des gens très intelligents qui ont eu cette idée, qui se sont dit « Ah bah les gars, j'ai un concept incroyable. » Bon, bah attendons d'être
ébahis
par cette
nouveauté. Il y a un petit côté foire de Paris XXL, genre concours l'épine du truc le plus ouf. Est-ce que c'est viable commercialement parlant?
Ça là, non.
C'est un concept pour l'instant.
Oui, c'est
un plan de commercialisation.
Je pense qu'ils ont un plan de commercialisation, mais pas chez nous en tout cas. Après, on verra. Hein. Tu connais le CES, c'est souvent des produits qui sont présentés, qui ne sont jamais commercialisés. Des lave-linges comme ça, avec des tambours au-dessus, on en a vu. Il n'y en a qu'un qui est sorti, c'est le multi-wash pour le moment.
Ouais.
Donc lui, je pense qu'il aura un avenir à la décharge.
Et c'est intéressant ce que vous disiez, toutes les innovations présentées au CES ne sont pas forcément vouées à arriver jusqu'à chez nous, pas seulement parce qu'elles sont à l'état de prototype.
Non, non.
Après, un salon, ça sert aussi à ça. Ça sert à jauger de la réaction du public face à un produit. C'est-à-dire, ils vont te mettre un truc incroyable, et en même temps, derrière, tu auras des gens qui vont regarder un petit peu si les gens sont intéressés, s'ils regardent, tu passes à côté sans le mater.
Faire d'appels d'offres aux distributeurs.
Voilà,
et parfois, il y a des produits qui sont juste faits pour des marchés spécifiques, que ce soit le marché de l'Asie ou le Maine. Vu que c'est un centre pour les journalistes du monde entier, on va les montrer quelque part.
Mais c'est des retours seulement de professionnels. On le disait, c'est un rendez-vous, c'est un peu de l'entre-soi. Alors, c'est quoi le frein le principal, c'est le coût, la sécurité, ça peut être la fiabilité du produit, l'idée en elle-même.
Tous les coûts.
Les coûts,
je ne sais pas si c'est le coût, c'est plus la pertinence du truc, en fait. Si tu as 400 personnes qui voient ton produit, qui disent bah, « ça sert à quoi ?» Bah voilà.
On prend le cas du lave-linge séchant en mode sound system. ils le présentent. Pour eux, c'est un produit fini. Le but, c'est quoi? C'est de lancer des commandes? C'est que le salon serve à ça?
Ouais, c'est ça. Pour moi, ils jaugent surtout des retours clients. Alors, clients, on s'entend, hein, c'est distributeur, c'est la presse aussi, parce que s'ils s'intéressent de près, c'est que quelque part, ça éveille un intérêt. En fait, c'est beaucoup de faire parler, tout simplement. Parce que là, on a parlé d'iSense, ça leur fait une pub pendant un quart d'heure.
Bien sûr.
Sans
dépenser. Comme les robots à la con, là, tu vois. Ils font de la boxe, je sais pas quoi, là, ils font du breakdance. En fait, ils se cassent la gueule au bout de 2 minutes.
C'est ça. Regardez. Comme le robot russe, là, tu te rappelles? Et la vidéo, là, qui s'est pointée sur le ring avec une grosse présentation en grande pompe pour dire, on fait mieux que Tesla, on fait mieux que le robot est arrivé sur la musique de Rocky, il a fait 2 pas, il s'est pété.
Let's go. Comme un gabouret. Ça, c'est le genre de robot que j'aime, ça.
Ivan Drago.
Let's go.
On parlait de changement de form factor. Côté smartphone, ça arrive aussi avec les trifold, donc les smartphones pliants en 3 volets, des technologies d'écran flexible sans marque de pliure. Est-ce que l'avenir, c'est d'avoir un appareil qui en remplace plein d'autres?
S'il y a un device qui est fait pour ça, c'est smartphone. Et donc, s'il y en a un qui doit décliner dans toutes les sauces, c'est smartphone. Simplement parce que c'est le plus petit et que c'est le plus populaire et que tout le monde a un smartphone et que tout le monde en veut. Hein. Donc, je pense que s'il y a un device qui va multiplier ses fonctionnalités avec les écrans, etc., et qui a pour vocation, notamment à Terrassa, mais aussi à travers les services qu'il propose, de remplacer les autres, c'est le smartphone.
Et on peut parler de révolution d'usage ou simplement de démonstration technologique
pour les clients, là. Non, ouais. Non, il n'y a aucune révolution, il faut arrêter. Même l'écran qui se déplie.
J'aime quand tu es définitif.
Non, même
il faut savoir qu'il est exactement pareil à la rédac dans l'open space.
Non, mais même un full tout court, je veux dire, tu waouh, j'ai 2 fois plus d'écran.
Après, le full, c'est vrai que moi, j'utilise quotidiennement. Très rarement, j'utilise des piliers. En fait, j'utilise des piliers pour jouer et c'est tout.
Je peux mieux lire. Tu veux dire, au bout d'un moment, si c'est ça ta révolution, on en est où, en fait?
Pour les vidéos, ça peut servir aussi. Voilà.
Tu fais tac. Enfin, je veux dire, ton vidéo, elle aura des bandes noires en haut et en bas. T'sais. Donc, dans tous les cas.
Ouais, mais ça sera plus grande quand même.
Tu veux dire, oui, un peu plus grande.
Un peu plus grande.
Après, tu as les Pro Max qui sont les tailles de, on dirait des pierres. Genre, tu vois, moi, le Trifold, au début, j'ai cru que c'était une blague. Après, je l'ai vu, j'ai fait non. Ma gueule. Il y a 3 écrans dans le cul, tu fais paf, paf, paf. Et genre, t'es dans le métro et t'as un truc comme un. Moi, j'ai un mec ça dans le métro, j'ai envie de le. Tu l'as tapé, tu vois, je sais pas.
Puis après, t'as le train aussi, t'as.
Oui.
Voilà, quoi, tu vois.
Ouais,
non, moi, je trouve que c'est pas idiot, en fait. T'as un grand écran dans un format réduit. Bon, écoute, pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi, c'est un usage extrêmement spécifique qu'on n'a peut-être pas. Mais clairement, si je peux jouer sur un plus grand écran pour mieux voir ce que je fais, ouais, ça me plaît. Toujours dans un format contenu, évidemment.
Alors, on parle de smartphone, d'ordinateur portable, on pense forcément à un gros morceau, c'est la crise de la RAM qui inquiète pas mal les constructeurs. Quand on dit crise de la RAM, mon cher Diogo, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle exactement?
Les grands acteurs de l'IA, qu'on appelle aussi hyperscalers, les OpenAI, les Anthropic, les Google aussi, les Microsoft, ont des besoins énormes en termes de centres de données, en termes de serveurs, et donc en termes de hardware, de matériel informatique. Et ce matériel informatique, il est principalement composé de beaucoup de puces de mémoire vive dynamique. Et ces puces de mémoire vive dynamique, on les retrouve dans tous nos appareils électroniques connectés, que ce soit les smartphones, les PC portables, etc. Sous une forme différente pour ces acteurs-là, parce que c'est des puces qui répondent à des besoins très spécifiques de calcul, aussi de traitement de données. Ces puces-là, en fait, elles sont fabriquées qu'à un nombre limité, en fait.
Ouais.
Une boîte qui fabrique des puces de RAM, de mémoire vive dynamique, elle a un rendement mensuel, qui est divisé par différents types de puces en fonction des appareils auxquels ses fournisseurs lui achètent. Mais ce qu'il faut, sauf que quand OpenAI vient il y a 3 mois et dit « je veux 40% de ta production pour que tu puisses me faire des puces, ce type de puces-là », forcément, parce que les boîtes en question ont besoin de répondre à leurs actionnaires, à des chiffres, etc.
Ils vont se
diriger vers ces acteurs-là et elles vont répondre à ces besoins en priorité. Ce qui forcément fait pâtir les autres puces qui sont normalement manufacturées dans ces mêmes chaînes de production, qui sont aussi à un nombre limité, parce que construire une usine qui fabrique des puces, c'est parmi les entreprises les plus difficiles, les plus longues et les plus coûteuses de toute l'industrie, tout type confondu, en fait. Mm-hmm. Alors, en plus, on va pas rentrer dans tout ce qui est les machines qui permettent de fabriquer des puces à un niveau de graveur de finesse encore plus avancé, parce que là, on tombe dans le secteur industriel.
Ouais.
Et ça, c'est des histoires de pays qui se tirent la bourre, la Chine, les États-Unis, etc. Chacun veut avoir l'avancée technologique la plus importante, etc. Donc, c'est extrêmement opaque qui fonctionne à grand mouvement. Et donc là, le mouvement actuel, c'est de répondre à ce que OpenAI, etc., demande. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ces boîtes-là, qui sont un vrai cartel parce qu'elles ont un contrôle absolu sur 90% du marché des puces, ils répondent à leurs besoins à eux. Sauf que du coup, ça fait moins de puces pour les gens qui font des PC portables, des barrettes de mémoire vive qui sont des composants dans les tours de PC, PC fixes, aussi dans les puces de mémoire pour les smartphones. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les prix commencent petit à petit à augmenter. Alors, on a vu l'augmentation sur les fameuses barrettes de RAM dont je parlais tout à l'heure. Ces barrettes-là, le grand public peut-être qu'il ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est des composants qui sont essentiels. Quand on fait un PC fixe, il faut des barrettes de RAM, en fait. Sinon, tu ne peux rien faire. On a vu les prix tripler, quadrupler sur des barrettes qui coûtaient 150 euros il y a genre 6 mois. Aujourd'hui, ça change à 600 euros, 700 euros. Parce que les boîtes qui fabriquent ces barrettes-là, elles se fournissent près de ces fabricants de puces-là. Sauf que quand le type lui dit, écoute, je n'ai plus trop de soif pour ta gueule, tu peux te démarrer toi avec ce que j'ai. Là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas. Évidemment, le rapport de différence de prix entre ce qu'il achète en gros et ce que nous, on paye en magasin n'est pas du tout le même. Parce que forcément, ce qui commence à coûter un peu plus cher chez le fabricant, il est exponentiellement augmenté vers le consommateur, parce que c'est toujours le consommateur qui se fait avoir.
Oui, parce que c'est ça le problème, c'est que fabricant prix à la gorge, ok, augmentation, ok, mais finalement, c'est le grand public qui en prend plein la tronche. C'est-à-dire que les marques ne sont pas capables ou ne veulent pas absorber ce genre de hausse.
Elles ne veulent pas, elles veulent juste pas, c'est toujours pareil, c'est toujours le courant. Il y a des marques où c'est plus flagrant d'autres, mais en général, c'est toujours le consommateur qui va finir par payer, parce que le consommateur, il a besoin de ces barrettes de là, parce que le public enthousiaste qui veut se faire son PC, le customiser, l'améliorer, etc. Il y en a qui vont être prêts à lâcher les 600 balles. Ils s'en fichent. Ils veulent absolument ça, donc ils l'auront. Le problème, c'est que là, on touche à un marché, je ne vais pas dire de niche, mais quand même d'enthousiaste, pour l'instant, pour les barrettes de RAM. Sauf que là, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les SSD, donc les modules de stockage internes ou externes, les trucs pour stocker vos fichiers, etc., que ce soit des photos ou des vidéos de vacances ou des trucs importants, ces modules-là commencent aussi à, moins rapidement que les barrettes de RAM, mais commencent aussi à augmenter de prix. Parce qu'elles utilisent aussi un type de puces de mémoire. Donc, en fait, on a déjà deux éléments cruciaux dans le marché informatique qui commencent à augmenter. Que ces éléments-là, on les retrouve aussi dans les smartphones et dans les PC portables.
Dans les consoles.
Et donc, dans les consoles. Et donc, il y a des fabricants qui ont commencé déjà à dire, HP et Lenovo, vous avez peut-être vu l'actualité, on vous dit tout de suite que l'année prochaine, il ne faudra pas vous attendre à des produits avec 32 Go de RAM, avec machin, etc.
Et là, c'est ça. C'est-à-dire que les conséquences, clairement, c'est quoi? Augmentation des prix ou baisse des capacités des produits pour les prochaines consoles next-gen, par exemple?
Pour le marché de l'informatique, ça va être des caractéristiques techniques qui seront moins avancées, notamment, voilà, comme je te l'ai dit, la RAM, parce que c'est peut-être le type de puce qui va manquer le plus. On va passer, la moyenne, c'est 6 gigas, on va passer peut-être à 8 gigas. Pour le grand public, ça ne va peut-être pas dire grand-chose, mais il faut savoir qu'un PC, ce n'est pas qu'un processeur, ce n'est pas qu'un disque dur, c'est aussi la mémoire vive. Elle permet de pouvoir utiliser ton ordinateur de façon plus fluide, de façon plus rapide, de faire du multitâche. Quand moins tu as de RAM, plus c'est compliqué. Surtout quand tu es quelqu'un qui a plein d'onglets sur ton navigateur comme moi et que la RAM commence à pomper au bout d'un moment. Donc ça va faire qu'on va avoir des ordinateurs qui seront moins avancés en termes de caractéristiques techniques. Mais ça va aussi monter les prix des composants comme le processeur, parce que le processeur, il utilise aussi des mémoires dynamiques. Oui. Donc ça veut dire que Intel, AMD, machin, ils vont commencer à dire aux fournisseurs de PC, désolé, mais on est obligé d'augmenter le prix de cette puce-là que tu mets dans ton ordinateur. Et donc à la fin, qui s'équipe, c'est nous. Pour les consoles de salon, ça va être la même chose. Les prix ont déjà commencé à augmenter, que ce soit chez Microsoft, chez PlayStation. Alors la réponse, c'est que s'ils ont observé le marché et savaient que ça allait arriver, du coup ils ont fait ça en avance pour amortir les coûts, j'ai pas la réponse exacte, mais moi j'imagine que oui. Et ça revient le propos dont je disais tout à l'heure, c'est que ça, l'informatique entre guillemets avancée, mais qui simplement suit le cours technologique du progrès auquel on est habitué. Avant c'était une courbe qui se suivait doucement au niveau du prix, au niveau de la tech. Le dernier cri coûtait un peu plus cher, mais commençait à baisser de prix au bout d'un moment, au fur et à mesure que la technologie commençait à avancer. Là on trouve qu'il s'avère que c'est pas du tout le cas.
Tout augmente, ma bonne dame.
Que ce soit mieux, moins bien ou pas, tout augmente.
Moi, j'ai l'impression que c'est les modèles accessibles qui vont souffrir le plus, et peut-être même finalement les modèles premium qui se retrouveront freinés. On parlait des fonctionnalités liées. Alors moi, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que moi, c'est smartphone toute la journée. Mais en général, les constructeurs ont tendance à dire qu'il faut au minimum 8 Go de RAM pour faire tourner des fonctions d'IA, etc. Parce que sinon, c'est pas viable. Ça voudrait dire quoi? Que finalement, on mettra sans doute certains utilisateurs de côté parce qu'ils pourront plus se permettre de les utiliser, ou ce sera simplement la facture qui va s'alourdir?
Il y aura sûrement certains qui vont être limités, peut-être. Mais
donc ça va dans le sens que tu redoutes.
l'informatique, ou en tout cas la tech telle que toi tu l'imagines, c'est-à-dire on-device, qui t'appartient, qui est vraiment, voilà, ça tend à disparaître, puisqu'on va pousser les gens à finalement fonctionner à distance.
Qui vont être dépendants à des services de cloud, qui sont susceptibles à des attaques, qui sont susceptibles à des pannes, enfin, à les pannes AWS qu'on a connues ces derniers mois, vont se multiplier. Certaines personnes pourraient devenir plus dépendantes de services, en fait, simplement, et de devoir tout passer par une IA pour faire la manipulation photo, quoi que ce soit, au dépend de ce qu'ils auraient pu faire en local.
Et vu qu'il y a un onglet tech plus durable sur le site, est-ce que le reconditionner ou l'upgrade de RAM redeviendra un réflexe ?
Pour une barrette de RAM, tu peux, oui, tout à fait, la prendre en occasion. C'est l'un des produits, je pense, en informatique qui est le...
Qui vieillit le moins.
Qui est le moins susceptible. Tu vois, un disque dur, un SSD en reconditionné, par exemple, une carte graphique. Bon, la règle, une carte graphique. Mais un SSD, je conseille à personne d'en prendre d'occasion parce qu'on ne sait pas combien de cycles ont été utilisés, on ne sait pas s'il a été vraiment très utilisé par le passé. Une barrette de RAM, en général, on est plutôt safe sur du reconditionné. Mais c'est un test très physique. Par exemple, tu ne pourras pas acheter de la RAM d'occasion
pour un smartphone. Tablette,
bien sûr. Il y a beaucoup de PC portables qui ont la mémoire vive qui est directement soudée sur le processeur. Donc, tu ne peux pas l'upgrader. C'est juste pas possible sur de plus en plus de PC portables. Donc, ça n'a pas ta solution. La solution, je ne sais pas c'est quoi la solution. La solution, ça va être d'organiser une résistance et peut-être de changer ses modes de consommation et de se dire, est-ce que j'ai envie de me rendre dépendant, en fait, d'un service d'IA, inconsciemment ou non. Parce que quand je vois des gens qui utilisent des modèles de langage pour répondre à des questions, enfin, Sam Altman, par exemple, le patron d'OpenAI, qui va à la télé et qui dit, moi, j'utilise l'IA pour éduquer mon gosse, en fait. Je lui demande à l'IA, dis-moi, mon gosse, il cherche pas quoi à 3h du matin, ça veut dire quoi ? On voit ça et on se dit, putain, qu'est-ce qu'il est bête ? Mais ça peut commencer par des trucs qui paraissent innocents, enfin, une recherche rapide pour, un truc de cuisine ou je sais pas quoi. Mais ça peut se développer, ça peut venir de plus en plus. Et quand je vois à quel point ça peut prendre le dessus sur les réflexes d'usage de technologie pour les gens qui sont autour de moi, ça m'effraie considérablement. Ouais.
On va essayer de finir sur une note un peu positive. Voilà. Quand l'émission sera sortie, le CES sera terminé, mais on sera en pleine première semaine des soldes.
Les soldes, on veut dépenser de la thune qu'on n'a pas.
Yeah. Eh bien justement, voilà, est-ce que vous avez un bon plan chacun pour terminer ?
Moi, c'est un produit de niche justement que je voudrais mettre en avant. C'est la manette Access de Sony pour la PlayStation 5, qui est une manette pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit de façon très polie. Allez voir le petit bidule, en fait, c'est extrêmement bien fait. Ça ressemble à un joystick, en gros, avec des boutons autour. Il n'y a pas que les personnes à mobilité réduite qui peuvent l'utiliser. C'est très bien pour jouer à d'anciens jeux d'arcade, comme j'adore. Les shmup, les beat'em all, les jeux de combat. Pour les jeux de combat, c'est extraordinaire. Elle est en solde en ce moment chez Son et Vidéo, de façon très étonnante. Elle est à 60 balles, je crois. Alors, c'est encore un peu cher. Mais alors, si vous avez un gosse qui rêve de jouer à plein de trucs et qui ne peut pas parce que les manettes ne sont pas faites pour lui, dirigez-vous vers ça. C'est extraordinaire, c'est génial. Et pas seulement parce que, voilà, mais parce que c'est aussi un excellent périphérique de jeu. Tout jeu confondu, même pour moi qui suis tout à fait valide, mais très, très nul aux jeux vidéo.
Moi, rien à voir. Il y a la LG C5 qui est à moins de 1000 euros chez Son Vidéo aussi. J'ai le seum. Parce que moi, j'ai acheté une C3 il y a un an et demi. 3 mois plus tard, la C4 est en promo au même prix. Et là, c'est la C5. C'est bon. Au bout d'un moment, ça me saoule, j'en peux plus.
C'est pas un peu la loi du marché, ça, de toute façon.
Ouais, c'est vrai. Et 55 pouces pour la promo, donc, comme je viens de dire. Et puis, c'est génial, là, je crois. Tu sais que j'ai un plombier, il est venu chez moi. Un petit moment, trop si casse ma life. J'ai le plombier qui était venu chez moi pour réparer mon chauffe-eau. Il se pose sur mon salon, mais j'ai un studio, donc il se pose sur mon canapé, commence à faire la facture, et il voit ma télé. Il dit, c'est une C3, c'est une quoi ? C'est une LG, machin, là. Je dis, oh, comment vous savez ? Il dit, je m'y connais un peu et tout. Moi qui pensais que les délires du numérique, c'était vraiment réservé qu'au numérique, ce genre de truc, LG, machin.
Qu'on était qu'entre nous.
Mais ça, mon plombier, il vient chez moi, et il commence à me mansplainer sur les télés. Je lui dis, je suis au courant, c'est mon métier quand même, mais bref, LG C5, c'est des chouettes télé.
Et ben on termine sur un homme heureux, ça fait plaisir.
C'est bien, ça nous change du reste de l'émission, quoi.
Henri Diogo, merci beaucoup.
Merci à toi de nous avoir reçus dans ce podcast incroyable.
Vous avez inauguré la saison 2 du podcast.
La saison 2
ouais. Waouh.
Déjà.
Comme on le disait, les deux, souvent, ils sont moins bien que les premiers.
Et ben merci d'être venu prouver le contraire, les gars. Vous revenez quand vous voulez. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une excellente année au nom de toute l'équipe des numériques. Les meilleurs bons plans des soldes et le résumé du CES à lire sur le site. À vendredi prochain. Ciao.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.